Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue d'Ensemble sur Calade. Ravi de vous retrouver pour notre émission quotidienne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Nous sommes le mercredi 22 juin 2022. Les températures montent à 29 degrés environ cet après-midi dans le Beaujolais. Et Météo France annonce encore des risques d'orage et même de grêle. Bon, il continue de faire chaud. Continuons donc à bien nous hydrater. Dans notre émission, aucun risque d'averse, que des choses et des personnes ensoleillées. On va retrouver Gabriel Caramana pour nous parler de plantes sauvages. Charline Simillon, notre diététicienne, nous parlera de notre alimentation. Et enfin, on a rendez-vous avec Carole Sénélard des Jours, alias Marie Maguelone, pour sa rubrique Zéro Déchet. Avant ça, notre invitée, c'est Carole Gentier, qui s'occupe de la programmation culturelle de la ville de Lima. Elle va nous présenter les festivités prévues pour le début de l'été. C'est la folle parenthèse du 2 au 10 juillet, avec la thématique du voyage cette année pour la deuxième édition de ce rendez-vous. Va y avoir du cinéma, de la musique, du théâtre, de la lecture, du cirque et même de la danse. Elle nous raconte ce programme culturel imaginé pour tous dans quelques minutes. Avant ça, on va partir en voyage tout de suite. On part en vacances, en tout cas le temps d'une chanson avec Séverin, ça s'appelle En vacances. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h14, merci d'être avec nous. J'espère que c'est un morceau qui vous a détendu. C'était Séverin sur Calade avec En Vacances.
Ensemble sur Calade.
Allez, aujourd'hui avec nous, c'est Carole Gentier qui est venue nous voir en studio. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être venu nous faire un petit coucou pour parler aujourd'hui de La Folle Parenthèse. C'est quoi, c'est un festival ?
Alors La Folle Parenthèse, c'est un festival qui est organisé par la ville de Lima, plus spécialement par le service culture. Moi, je travaille à la ville de Lima depuis le 1er septembre et je remercie les élus d'avoir mis quelqu'un de professionnel à la tête du service culture et de la médiathèque. Ce festival La Folle Parenthèse avait eu une première édition l'année dernière, organisée par Floriane Guy, que j'ai remplacé, et les élus, et bien évidemment l'adjointe à la culture. Et puis, lorsque j'ai pris mon poste, il était tout à fait normal de continuer avec une seconde édition.
Je crois que la première, c'était le temps d'un week-end, c'est ça ?
La première, c'était le temps d'un week-end. Là, cette année, nous sommes allés plus loin, voilà, puisque nous serons présents du 2 au 10 juillet avec, on va dire, des animations, des spectacles pour tous les âges de la vie et pour tous les publics.
Donc, une semaine de propositions culturelles. Comment ça se prépare, un tel événement ? Comment ça se réfléchit ?
Alors, un tel événement, ça se réfléchit en regardant déjà « Jamais pour soi ». Quand on programme, pas pour l'équipe municipale non plus, en regardant pour le public, voilà, en se disant, la population, il en faut pour tous les âges, il en faut pour tous les goûts, il faut également faire participer la population, elle est spectateur, mais vous verrez dans le programme qu'à un moment donné, certains habitants de Lima sont aussi acteurs et se dire, cette tranche d'âge, on peut lui proposer tel produit, telle autre tranche d'âge, on va proposer autre chose, de manière à ce que dans une semaine, tout le monde se dise, moi je suis allé voir une chose, deux choses, trois choses, mais que tout le monde, à un moment donné, à l'offre qui peut lui correspondre.
Chacun puisse y trouver son compte. Et donc, effectivement, c'est aussi un festival où, où le public participe et acteur de certains événements. C'était important de pas avoir... de pas avoir juste des spectateurs.
Mais... Oui, alors c'est important. Et puis parce que, donc moi de formation, je suis comédienne, c'est mon métier de base. Et je remercie vraiment les élus aussi de me faire confiance sur ce volet-là. Et donc à ce titre-là, on va monter une lecture spectacle théâtralisée avec les assistantes maternelles de la commune, les bibliothécaires et puis des personnes aussi du Club de l'Amitié. Il y a donc 14 personnes sur scène. Et donc j'ai cherché des textes et des chansons sur le thème des vacances, et c'est pourquoi la soirée s'appelle « Vous partez où cet été ?» Donc on répète tous les jeudis soirs, déjà depuis quatre semaines, et ça permet aussi aux gens de Lima, par exemple les parents qui confient les enfants aux assistantes maternelles, de venir voir leur nounou sur scène le temps d'une soirée, et ça mélange aussi les âges de la vie, les bibliothécaires qui m'accompagnent tout au long de l'année sont bénévoles et ça leur permet aussi d'être sur scène et dans un spectacle et d'avoir la parole. On transforme aussi la médiathèque en lieu de spectacle ce soir-là, avec des rideaux et des projecteurs.
Très bien. Et dans ce spectacle, il y a de la littérature, de la chanson, j'ai vu des faits divers aussi, il y a de l'humour.
Oui, tout à fait, parce que l'époque des vacances, on repart aussi sur comment les vacances ont été créées, qu'est-ce qui peut vous arriver en vacances, pourquoi on a besoin de partir en vacances, Il y a aussi des perles de l'humour, par exemple, dans le spectacle, il est dit, on ne fait jamais de photos de boulot, on fait des photos de vacances, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Vous voyez ce style d'humour.
Une phrase de des proches qui me fait beaucoup rire sur les vacances, c'est au début de l'été, 400 000 Français partent en vacances, tous ne reviendront pas.
C'est de l'humour noir. On en a mis aussi dans notre spectacle. Et puis aussi, il y a un spectacle aussi la veille, avec l'ensemble Éole, l'orchestre Éole qui regroupe des élèves du conservatoire. Ça nous semblait aussi important que certains, bon, il y a tous les âges de la vie, certains deviendront musiciens professionnels. Et pour nous, il est capital, comme EOL est aussi l'orchestre qui est basé sur Lima, que, voilà, qu'ils aient aussi une carte blanche pour un soir avec leur chef Fabien Bernou.
Ouais. Carte blanche, vous savez un petit peu quand même.
Alors non, pour l'instant, voilà, ils ont prévu différentes pièces musicales, voilà, des choses, on va dire, très contemporaines, du blues tango, différents. Aussi, l'idée de EOL, c'est de nous faire connaître aussi des compositeurs actuels. Donc voilà, ça va être, je pense, un concert pour tous les goûts aussi, ouais. Ce soir-là.
Programme très riche. Il y a également du cirque.
Oui, alors il y a du cirque avec une compagnie que j'avais découvert il y a quelques années, qui s'appelle la compagnie Prise de Pied. Et le spectacle s'appelle T'es perché. Ben, c'est tout simplement des acrobaties. Comment en acrobatie servir un thé fait maison, donc avec deux artistes de la compagnie Prise de Pied. Ça permet aussi aux spectateurs de voir tout le travail avec le corps. Et là, on a souhaité, puisqu'on va faire des restaurations légères à l'issue de chaque spectacle, et là on s'est associé avec le groupe sportif du hand de Lima, parce qu'on s'est dit que voilà, que ce soit le cirque ou que ce soit le sport, il y a tout un travail avec le corps, et moi personnellement j'aime bien quand on mélange sport et culture. Ouais. J'aime pas quand on coupe les deux.
Faire des ponts.
Ponts. Moi, ouais. Je suis aussi issue du monde sportif, et je trouve que c'est intéressant de travailler ensemble. Ça permet aussi à des publics qui se découvrir, des gens qui viennent du monde du sport, de découvrir du spectacle, et quelquefois l'inverse aussi.
Ouais, créer des rencontres.
Exactement.
Aussi, Très bien, donc ça, ce sera le vendredi 8
juillet.
Toujours à la médiathèque, là on sera sur le parvis.
Oui, parce que c'est un spectacle en plein air où il y a un grand cercle rouge, un petit peu comme au cirque, ouais. Un gradin et puis des chaises pour s'installer.
Spectacle tout public, donc une cérémonie du thé, on est un petit peu loin de la traditionnelle cérémonie japonaise, j'imagine.
Oui, on est quand même bien loin de la cérémonie japonaise, et puis on est peut-être loin aussi de la cérémonie du Beaujolais, mais on pourra aussi en boire après. Quoi.
Très bien, voilà. Oui, ça n'empêche pas. Il y a du cinéma aussi.
Alors, il y a du cinéma. C'était pas simple cette année avec le Covid, avec les films disponibles, avec les films qui repassaient en salle, de faire un choix. Ouais. C'était pas simple parce qu'il y avait moins de films. Bien sûr, il y a des films qui ont été victimes du Covid, donc qui ressortent en salle. Ouais. Donc, on a fait le choix avec l'équipe municipale de passer Kaamelott. D'abord parce qu'Alexandre Astier est un acteur, est un réalisateur de la région lyonnaise. Que c'est un film aussi qui a été produit en région Rhône-Alpes, et ça nous semblait important. Aussi, quand tout à l'heure je vous parlais de tranches d'âge, eh bien Kaamelott, c'est tous les âges de la vie.
Ah oui.
Donc bien sûr, ce film est déjà passé en salle, mais le voir en plein air, tout simplement sur notre petit théâtre de verdure, je pense que ça va être aussi une très belle soirée.
Voilà. Et rire tous ensemble.
Et puis dedans, il y a eu aussi beaucoup d'emplois de comédiens lyonnais qui sont dedans, et c'est important aussi. Ouais. Les gens comme Jacques Chambon, voilà, Alexandre Astier lui-même, Joël Sevilla, qui sont dans le film.
Et il y a beaucoup de figurants dans ce film, parce qu'il y a des armées, enfin on ne va pas raconter toute l'histoire, mais il y a beaucoup de figurants, ils ont fait appel à des amateurs, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait ce plaisir-là d'être... figurant sur le film de Kaamelott, la série qu'ils ont beaucoup regardé.
Ah ouais, tout à fait. Donc c'est voilà, ça permet aussi d'avoir vraiment, comme vous dites, des figurants d'ici. Et pour moi, c'est toujours très important de mélanger, les gens amateurs, comme vous dites, qui viennent une journée de tournage, les professionnels, et de faire travailler essentiellement aussi des gens de la région Rhône-Alpes. Ouais. Alors des fois, bien sûr, on accueillera des spectacles qui viennent de plus loin. Voilà, de toujours penser à cet équilibre.
Là, on est sur la soirée du samedi 9 juillet. Le festival se termine le dimanche avec un orchestre de rue qui s'appelle Sopa Loca. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet
Sopa Loca, alors c'est un mélange de musique sud-américaine et tropicale. Voilà, c'est 7 musiciens. C'est une fanfare qui va déambuler, qui va permettre aussi au public de danser sur de la salsa, sur des rumbas. Voilà, ils ont réorchestré pas mal de choses. Il y a un métissage de musique traditionnelle et il y a beaucoup d'humour aussi dans ce spectacle. Donc, ça nous permettra effectivement de terminer. Également, on ouvrira, on n'en a pas parlé, mais c'est très important au niveau de la médiathèque, avec une vente de livres. Chaque médiathèque, chaque année, déserve. Et donc, on va faire des petits prix à 1 euro. Donc, toute la journée du samedi. Ça permet aux gens, bien sûr, qu'ils soient abonnés ou pas, de venir acheter des livres. Le bénéfice de cette vente sera reversé à l'association Les Bras Ouverts.
D'accord.
Donc, c'est important. Et on a de très beaux livres aussi, mais comme on en achète, il faut désherber. Et je pense que la vente des livres fera vraiment des heureux de tous les âges. On sera là toute la journée, toute l'équipe. Vous pourrez en mettre plein vos valises.
Donc, c'est le samedi de 2 juillet.
De
10h à 18h. On n'a pas parlé du stage de danse qui a lieu le mercredi matin.
Oui, alors un stage de danse, tout à l'heure vous parliez du Japon. On sait que dans les pays asiatiques comme le Japon, comme la Chine, les gens font beaucoup de bien-être dans les rues. Et là, on a demandé donc à une professionnelle, Mylène Jardin aussi, de proposer pendant 2 heures de la relaxation dans le parc Guillermet, de l'expression corporelle. C'est simplement 2 heures de bien-être où les gens peuvent venir, avec leurs enfants, peuvent venir tout seuls. Là aussi, c'est pour tous les âges de la vie. Voilà, comment est-ce que des fois notre corps, on le malmène au quotidien, on fait une petite parenthèse, c'est le cas de le dire, et on s'occupe de son corps.
Se concentrer sur son corps, c'est important et ça fait du bien. On l'oublie un peu trop souvent. On a fait le tour de la programmation, on a oublié d'évoquer un rendez-vous. Les plus importants, c'est la fête de l'été qui aura lieu le vendredi 1er
juillet. Oui, alors on a associé nos amis du comité des fêtes, qui eux ouvriront le bal. C'est leur habitude, c'est une coutume, et qui seront tout de suite le vendredi 1er juillet. Ça, c'est le comité des fêtes. Et puis, ça lancera les festivités de la semaine culturelle organisée par la ville de Lima.
Comment ça se passe ces activités, ces rendez-vous qu'on a donné? Est-ce qu'il faut réserver, s'inscrire?
Alors il y a déjà des coups de fil, il n'y a pas spécialement de réservation. Je précise aussi que tout est gratuit.
Ouais.
Donc, sur le stage bien-être, c'est sûr que c'est bien de s'inscrire. Il y a déjà quelques inscriptions. Ça permet à Mylène de savoir le nombre de personnes. Et puis, les autres, les gens viennent comme ça pour assister au spectacle, mais peuvent tout à fait nous téléphoner pour prendre des renseignements. Je vous répondrai avec plaisir.
Très bien. Et on retrouve toutes les informations sur le site internet www.lima.fr.
Bien sûr. Et puis la plaquette qui est disponible aussi dans tous les lieux culturels, de la région. Et puis, bien évidemment, à Lima.
Merci beaucoup, Carole Gentier. On vous retrouve. Vous avez organisé tout ça. Vous serez sur scène pour le spectacle du jeudi soir. Vous partez où cet été?
Oui, évidemment. Au départ, je voulais que le mettre en scène. Et puis, le groupe de 14 m'ont dit: allez, fais un petit texte avec nous. Je vous avouerai que je ne me suis pas fait prier.
Parce que vous êtes comédienne.
C'est pour ça.
Très bien. Merci beaucoup encore une fois.
Merci, Mathieu.
À très bientôt.
Bon été.
Ensemble sur Calade.
Allez, on part où en voyage? Je ne sais pas, c'est Montmartre qui va nous le dire. Il nous chante « Viens, je t'emmène ».
Mesdames et messieurs, la compagnie Air France est heureuse de vous accueillir à bord de ce vol.
Qui a posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'ai moins froid. Je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles retrouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène où le soleil le soir va se reposer.
Pas pour vous, moi je veux bien les suivre. Montmartre, c'était Viens, je t'emmène.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplifusienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, le serpolet est à l'honneur aujourd'hui car il fleurit déjà dans nos contrées beaujolaises. On lui donne des surnoms tels que thym serpolet, thym rouge ou thym sauvage. Son nom scientifique est Thymus serpilum. Thymus vient du latin et du grec, désignant des labiers de petite taille, et de l'égyptien tham, nom d'une plante servant à embaumer les corps. Serpilum désignait en latin ce thym rampant. Le serpolet est classé dans la famille des lamiacées, anciennement les labiers, comme labial, en rapport avec la forme de ses fleurs. C'est une grande famille naturelle qui regroupe environ 6700 espèces dans le monde, dont de nombreuses plantes aromatiques utilisées dans notre cuisine traditionnelle. En voici quelques exemples connus. Les menthes, lavande, romarin ou mélisse. Le serpolet est une petite plante vivace aux tiges couchées. Il pousse en tapis. Ses tiges grêles, rampantes, s'enracinent au long de leur progression et se redressent à leur extrémité sur une hauteur de 5 à 20 cm. Ses petites feuilles ovales, vertes et pourpres, luisantes, ont un parfum délicat et une saveur piquante, rappelant celle de l'origan ou du thym citronné. Mais celle-ci n'est pas toujours stable et a parfois une odeur rance. Ses fleurs, de couleur rose pâle à rose soutenu, sont regroupées et agglomérées au sommet des tiges et sont fort appréciées par les abeilles et les papillons. C'est une plante qui se plaît dans les terrains arides et pierreux, surtout calcaires et bien ensoleillés. Vous la trouverez de la plaine à la montagne jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Elle est très commune dans la moitié sud de la France. Le serpolet est un stimulant qui augmente l'énergie et les forces physiques, relève le moral et révèle les fonctions digestives. Il est recommandé contre l'asthénie nerveuse, la fatigue et pour combattre l'anémie des jeunes femmes au moment de la puberté. Il stimule l'appétit et il est aussi sédatif des spasmes digestifs avec un effet carminatif. C'est un antiseptique des voies respiratoires et un calmant de la toux. Pour l'usage externe, l'huile essentielle de serpolet soulage les douleurs sciatiques ou névralgiques. En cuisine, le serpolet est un aromatique intéressant. On choisit les spécimens dont le parfum est plaisant et l'on cueille les sommités fleuries, c'est-à-dire le sommet de la plante avec feuilles et fleurs. Son parfum étant assez volatile à la chaleur, il est préférable de l'utiliser cru ou de l'incorporer dans les plats en fin de cuisson. En Scandinavie, il est traditionnel d'incorporer des fleurs de serpolet dans du fromage blanc. Certains chefs cuisiniers en aromatisent des sorbets. Alors je vous laisse faire appel à votre créativité culinaire. Attention, une précaution, son huile essentielle est très puissante et caustique. Elle est réservée à l'usage externe et il ne faut jamais l'ingérer. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine et vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Alimentation, santé.
Ensemble sur Calade.
Et oui, sans aucune transition, on passe tout de suite aux questions d'alimentation et de santé. Et pour ça, on retrouve Charline Simian. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, ça va bien, en forme ?
Parfait.
Bon, je me suis posé une question, il fait quand même trop chaud pour manger, je n'ai plus faim depuis une semaine. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Alors, c'est tout à fait normal.
Ouais.
C'est tout à fait normal parce que en fait l'organisme essaye de gérer entre la régulation thermique et le maintien de toutes les fonctions vitales. Donc du coup, il oublie de dire qu'on a faim. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait normal. Donc rassurez-vous sur ce point-là. Maintenant, il est essentiel de continuer à alimenter la machine pour autant.
Ouais. Oui.
L'idée, quand on a peu faim dans ces périodes de chaleur un peu intenses, c'est de ne pas manger ni trop chaud ni trop froid, parce que ça fait un choc et que ça oblige à surconsommer de l'énergie, en fait.
Ah ouais.
Et puis, ça oblige à digérer un petit peu plus tout le long de la journée, mais la possibilité, elle est de fractionner pour apporter la bonne quantité d'énergie, mais sur des apports qui soient plus petits, parce que on s'en est tous rendu compte, quand on mange, bah derrière on chauffe. Ouais. Et c'est très désagréable de surchauffer alors qu'il fait déjà bien assez chaud à l'extérieur.
Moi je trouve ça quand même un peu contradictoire comme situation, parce que la chaleur est fatigante à la fin de la journée. Moi je me sens très très fatigué à cause de ça. Et pourtant j'ai pas faim, alors que d'habitude quand je suis fatigué, que j'ai une journée fatigante, j'ai faim pour compenser en énergie. Est-ce que les besoins en nourriture, justement, vu qu'il fait chaud, qu'on dépense pas mal d'énergie, ils augmentent ?
Alors, ils augmentent pas, mais l'organisme n'est pas habitué à gérer ce genre de choses-là. Typiquement, on peut être écœuré et pour autant, il faut quand même le plus essentiel de tout, c'est de maintenir l'hydratation. Alors, pour les gens qui arriveraient pas du tout à boire, il y a les brumisateurs qui fonctionnent, ouais, qui permettent d'humidifier la bouche de manière très régulière et de s'hydrater. Mais véritablement, en fait, l'organisme est un peu affolé en ce moment et c'est plus trop où donner de la tête pour arriver à nous faire maintenir notre température hein, en réalité, parce qu'il y a des pertes d'hydratation assez conséquentes. Alors, on peut manger liquide et en même temps, on sera quand même rassasié beaucoup plus rapidement, même avec ça. L'idée, c'est effectivement de ne pas agresser l'organisme avec des choses qui soient trop difficiles à digérer, de maintenir les fruits et légumes qui sont quand même gorgés d'eau, les produits laitiers également, à favoriser, on ne le rappellera jamais assez, mais l'équivalent d'un yaourt, par exemple, ça fait à peu près l'équivalent d'un verre d'eau aussi en hydratation. Et ne pas oublier les féculents qu'on peut tout à fait consommer froid, mais qui sont eux les vecteurs de sources d'énergie. Donc souvent, on a envie de petites salades, de petites choses comme ça. Ouais. Ne pas oublier de mettre du riz dans la salade ou des pois chiches ou du maïs pour arriver à avoir cet apport d'énergie sans être obligé de les manger chauds. Hein. Il n'y a aucune obligation de les manger chauds.
Et vous avez dit pas trop chaud, pas trop froid. Moi, j'ai tendance à me jeter sur les pots de glace quand il fait cette chaleur-là. Et c'est pas forcément une bonne idée.
Alors, c'est pas forcément une bonne idée. La glace, bien évidemment, conseille de la manger froide parce que sinon ça perd un peu de son intérêt.
Oui, voilà.
L'idée, c'est peut-être l'eau, par exemple. Ça peut paraître anecdotique, mais les minéraux qui sont contenus dans l'eau sont plus digestes à une température qui serait proche de la température ambiante plutôt que froid. Quand c'est froid, c'est plus compliqué pour l'organisme à digérer, en fait.
D'accord, ça apporte moins de choses intéressantes.
Alors ça les apporte quand même, mais c'est plus compliqué pour l'organisme de fonctionner. Et comme il est déjà fatigué, que vous l'avez très bien évoqué, on va essayer de lui faciliter un peu la tâche. Mais effectivement, ne pas oublier de manger, quitte à se mettre des rappels, manger en petite quantité, tempérer des choses si vous êtes vraiment trop fatigué qui ne vont pas se mâcher, parce que ça peut être fatigant dans ces périodes de mâcher. Mais oui, on n'est pas obligé de congeler sa soupe pour la manger, quoi.
Et manger plus tard également, peut-être, est-ce que c'est une piste? Enfin, quand il commence à faire nuit, je commence à avoir un petit peu plus faim déjà en général.
Oui, alors pas de souci, bien sûr, décaler l'heure du dîner. On peut, comme je l'ai dit, fractionner et donc avoir un dîner qui soit plus léger et plus tardif, bien évidemment. Pourquoi plus léger? Parce que digérer, ça peut être compliqué quand s'agit d'aller se coucher, parce que là, on est quand même sur des horaires qui sont très tardifs. Ouais. Le coucher du soleil étant vers 22h30 en ce moment, c'est vrai que ça peut être très très tard pour des gens qui se lèveraient très très tôt le lendemain. Ouais. D'aller se coucher l'estomac plat, c'est pas toujours très confortable. Donc effectivement, si on fractionne un petit peu, on peut avoir un apport qui soit aux alentours des 22h, qui soit plus facilement toléré aussi, parce qu'on a cette capacité à surchauffer un peu plus quand il fait un peu plus frais. Je crois que ça va s'atténuer un petit peu, mais c'est vrai que les organismes étant échauffés, on a un peu du mal à reprendre et à récupérer.
Ouais, et puis a priori, des épisodes de chaleur comme ça, il va falloir qu'on s'y habitue un petit peu.
J'ai envie de dire que vous avez raison, tout à fait.
Malheureusement. Très bien, en tout cas, on a déjà des petits conseils pour gérer un petit peu mieux ces points-là, des conseils bien pratiques. Merci beaucoup, Charline.
Merci à vous, à bientôt.
À très bientôt sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Allez, il fait trop chaud, effectivement. C'est un morceau que nous chante Bleu Jean Bleu tout de suite. Il faisait bien trop chaud pour la coquetterie, c'est des Canadiens, alors excusez-leur l'accent.
Elle s'était mise dans la tête de gâter son homme en l'attendant à la maison comme un chat qui ronronne. Elle avait tout prévu en planifiant son coup, sauf la cuisante canicule qui était aussi au rendez-vous. De choisir des jartels dans sa coquine collection de quêtes de dentelle. Elle s'était faite belle pour faire des prouesses, mais sa nuisette de satin lui collait sur le chest. Ses cheveux frisaient des boutins inégaux, son pinche suait de grosses gouttes d'eau. Il faisait bien trop chaud pour la coquetterie.
Canadien, c'est le groupe de Mathieu Lafontaine et le morceau que l'on entend, c'était « Il faisait ben trop chaud pour la coquetterie ». Bleu Jean Bleu, musicalement, En général, c'est pas si mal. Et au niveau des paroles, je trouve qu'on se marre bien à chaque fois. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller écouter, histoire de rigoler un petit peu, ça fait du bien. Allez, c'est l'heure de la rubrique Zéro déchet de Marie Maglone.
Ensemble sur Calade.
Et pour nous parler de zéro déchet, eh bien c'est bien entendu Carole Sénélard qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Carole.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous proposez des conseils pour réduire nos déchets. Dans quel domaine est-ce qu'on va les réduire cette semaine ?
Alors nous allons partir au jardin ou au balcon pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, ou en terrasse, en bac. Et je vais vous proposer des astuces pour réduire les déchets au jardin et puis réutiliser certaines choses.
Très bien. Bon, alors par quoi on commence ?
Ah ben, par un engrais. Déjà,
c'est la base de tout.
Des fois, un engrais naturel permet de faire plein de choses. Donc là, on va réutiliser des pots de banane bio de préférence qu'on va mettre dans un litre d'eau pour 100 grammes de pots de banane et qu'on va laisser décanter pendant au moins 48 heures en mélangeant régulièrement. Et donc, le liquide va brunir et s'épaissir. Ensuite, il faudra le filtrer et jeter les restes de peau, et donc bien mélanger avec de l'eau, c'est-à-dire mettre une dose de cet engrais dans l'arrosoir quand vous arrosez au pied des végétaux.
D'accord.
Il y a du potassium, du magnésium, et donc ça va aider à la floraison et à la fructification.
Avec ces pots de banane, ok. Et pas alors, forcément les avoir mis dans un compost, les pots de banane, on peut les mettre de côté spécialement pour cet engrais.
Voilà, et après de toute façon, si on peut les mettre au compost après avoir effectivement fait la macération, il n'y a pas de souci.
Ah ouais, d'accord, c'est pas perdu, super.
Voilà, c'est jusqu'au bout. je vais vous parler aussi du composteur. C'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir en avoir un. On peut en avoir un au pied d'un immeuble en collectif, ça c'est possible aussi. Il faut demander à sa mairie. Et il faut savoir qu'un composteur, il avale, il peut ingérer jusqu'à 120 kg de déchets par an. Donc c'est super de pouvoir en faire un. D'autant que dans le composteur, on peut y mettre quasiment tous les déchets, c'est-à-dire les épluchures, les restes alimentaires, les restes de tonte si on a un jardin, les feuilles mortes, etc.
Tout ce qui est organique.
Voilà, tout ce qui est organique. Alors, il y a juste, on va dire, les branches, les branchages, il faudrait les tailler plus petits, pour donc les broyer éventuellement avec un broyeur, si vraiment on veut les mettre, pour que ça puisse se décomposer plus facilement. Et puis, après, on va passer aux plantations, c'est-à-dire qu'on peut faire des choix dans son jardin pour réduire ses déchets, aussi bien avant, pendant et après, toutes les phases de culture. Mmh. Donc, on peut déjà choisir des bulbes et des vivaces plutôt que des plantes annuelles, puisque ça va être des plantes qui vont revenir, qu'on peut laisser ou qu'on peut déterrer quand c'est le temps de les déterrer, les mettre à sécher et les replanter après quand c'est le temps de les replanter. Moi, je sais que mes bulbes, je les laisse en terre et donc d'année en année, en général, ils se démultiplient en plus. Donc, ça permet d'en avoir plus.
Ok, ça évite d'en racheter chaque année.
Ça évite d'en racheter. On peut faire la même chose avec les plantes, entre guillemets, qui débordent, c'est-à-dire qui vont se propager très vite, comme les fraisiers avec les stolons. Alors, il y a les fraisiers, il y a des montantes et des rampantes. Et donc, les rampantes, elles se développent avec ce qu'on appelle des stolons. Donc, c'est une petite tige de la plante qui part du pied principal, qui va toucher le sol et qui va s'enraciner, qui va repartir, etc. Donc, il y a plein de plantes qui fonctionnent comme ça. Et donc, du coup, si vous voyez que vous avez des plantes qui débordent un peu, et ben, vous récupérez les bébés, entre guillemets, de cette plante et vous pouvez les replanter plus loin et réaménager un coin du jardin. Ainsi, il n'y a pas de perte.
Ou les filer aux voisins.
Complètement. Oui, alors ça venait dans la suite de ma rubrique. On peut troquer avec ses voisins, avec ses amis ou des bourses au troc de jardin spécial. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des choses en double, en triple, vous pouvez effectivement les conserver comme les graines ou comme les repousses, les bulbes, ou les... ou les petits pots que vous pouvez mettre de côté. Et effectivement, faire du troc, c'est super. Là, c'est vraiment zéro déchet pour le coup, parce que
je crois qu'à la médiathèque de Villefranche, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a des rendez-vous qui sont donnés une fois par mois pour faire de l'échange de graines. À vérifier, mais je crois.
Il y avait les jardiniales de l'AMAP de chez Cy-les-Mines, je crois que c'était le début mai. Et effectivement, moi, j'avais échangé des graines avec eux lors de la première édition à laquelle j'étais allée. Et c'est vrai que c'est super sympa dans les AMAP, dans les mairies aussi, des fois ils organisent, dans les associations qui promeut les jardins.
Ouais.
On peut retrouver ce genre d'événement et c'est vrai que c'est sympa puis c'est économique.
Bien sûr, ouais.
Et donc, dans cette même idée, on peut faire ses propres semis pour les tomates, les courgettes, les carottes, le persil, la ciboulette. Ça fait moins de déchets, puisque ça fait moins de godets. Donc, on peut récupérer des bacs, des bouteilles en plastique, des boîtes à œufs pour faire ses semis. Et on peut le faire aussi pour les fleurs, les cosmos, les œillets d'Inde, les nigeldes, etc. Donc, ça permet effectivement de réduire le plastique dans le jardin.
Très bien, ok.
Et puis, deux dernières astuces. Si vous avez déjà des pots, gardez-les en les lavant entre deux plantations. Ça permet justement de réutiliser les pots que vous avez déjà, qu'ils soient en plastique ou pas. Et puis, on peut utiliser au jardin les coquilles d'œufs et le marc de café.
Ouais, qu'est-ce qu'on en fait ?
Les coquilles d'œufs, ça va désacidifier un sol, par exemple, quand on va le mélanger à la terre, ou être une barrière anti-limace. Alors, par contre, il faut quand même en mettre un certain volume. il faut les concasser, mais grossièrement, si vous voulez faire une barrière limace. Et le marc de café, pareil, ça va faire une barrière aux limaces et aux escargots. Mais en fin de compte, ça les tue pas. Hein, ils n'arrivent pas à marcher.
À baver sur le marc.
Voilà. Donc, du coup, ils évitent. Et le marc de café, effectivement, aussi peut venir enrichir le compost. Et on peut le mélanger à la terre de nos plantations.
Super, très bien. Et des beaux conseils. Merci beaucoup, Carole.
Merci à vous.
À très bientôt.
Bonne journée, merci, au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est là-dessus que va se terminer notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'est une émission à retrouver sur radio-calade.fr en réécoute et la rediffusion, comme chaque jour, ce sera demain matin à 10h. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous demain à 12h12 pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.
Ensemble sur Calade.
100.9.